Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. Les députés européens étaient réunis à Strasbourg cette semaine pour la séance plénière. On y a évidemment parlé du Qatar Gate. Véronique Lamquin, envoyée spéciale, nous raconte dans un instant ce qui s'est dit dans les couloirs. Mais avant ça, un député bruxellois voudrait réformer tout le système électoral. Nous sommes le jeudi 19 janvier, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
Julien Huitendal, député bruxellois socialiste, va déposer vendredi une proposition d'ordonnance, un projet qui pourrait complètement bouleverser notre système électoral. D'après lui, le principe des voix de préférence provoque des inégalités entre les électeurs. Il veut donc réduire leur poids. En sous-texte, on peut y voir une attaque contre le vote communautaire. Pour comprendre tout ce qu'il y a dans ce texte et ce qu'on entend par vote communautaire, on a réuni Maxime Biermé du service politique et Fanny Declercq du service forum. Bonjour Fanny.
Bonjour Pierre.
Bonjour Maxime.
Bonjour.
Maxime, elle contient quoi cette proposition d'ordonnance que va déposer Julien Huitendal ?
Alors c'est un peu technique, mais c'est pas si compliqué que ça. Maintenant, quand vous votez à Bruxelles, vous pouvez soit cocher la case tout en haut de la liste des candidats, soit voter pour un ou plusieurs candidats parce que vous les connaissez, parce que vous aimez bien leur nom, pour la raison que vous voulez. Lui trouve ça un petit peu injuste et inégal, puisque si vous ne votez que pour le candidat tout en haut, vous votez donc une fois, vous donnez une voix. Mais si vous votez pour 10 personnes dans la liste, ce qui est possible, voire même plus, il y a moyen de voter jusque 40 fois, eh bien alors vous donnez 40 voix. Et il trouve ça un peu inégalitaire. Et donc il voudrait qu'on divise le nombre de voix que vous avez donné pour que ça fasse 1. Donc par exemple, si vous avez voté 10 fois, on va diviser par 10 et chaque personne pour laquelle vous avez voté recevra 0,1 voix au niveau des voix de préférence qui peuvent donc faire monter quelqu'un dans la liste électorale et donc lui faire décrocher un poste de député.
Un petit rappel sur qui est Julien Huitendal.
Alors Julien Huitendal, c'est un député socialiste, un jeune député socialiste, il est aussi avocat dans la vie, il siège au Parlement bruxellois et donc il est un petit peu à la marge de son groupe politique, donc les socialistes au Parlement bruxellois, depuis quelques mois, depuis le mois de juin, où il y avait eu une grosse polémique autour de l'abattage rituel, je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'était très tendu dans plusieurs partis, dont notamment OPS, et lui avait voté contre, alors que le président du PS bruxellois, Medlaouège, avait dit que tous les socialistes voteraient pour cette loi comme un seul homme.
Son postulat, là, avec cette proposition d'ordonnance, c'est d'en finir avec le vote communautaire ?
Alors, évidemment, je lui ai posé la question cash et lui ne répond pas cash, oui. Il n'assume pas franchement que c'est pour des raisons communautaires, mais quand même, il cite dans ses exemples le fait que des femmes pourraient voter pour les femmes, des gens pourraient voter en fonction de leur origine ethnique, que les étrangers non-belges vont voter plus pour des non-belges. Il prend aussi, dans l'interview que j'ai fait avec lui, l'exemple même, c'est plus anecdotique, mais des nobles qui vont voter pour les petits deux.
Parce que c'est une réalité, Fanny, justement, il y a des études qui montrent que si on fait partie d'une communauté, on vote forcément pour des membres de cette même communauté.
Alors oui et non, parce qu'en fait, j'ai téléphoné à plusieurs politologues qui m'ont expliqué que tendanciellement, mais il y a des nuances, effectivement, les électeurs votent pour des personnes qui leur ressemblent et donc il y a effectivement un vote communautaire, mais ça vaut pour toutes les communautés, c'est-à-dire aussi bien à Beaulieu-Saint-Lambert qu'à Molenbeek. La plupart des votes sont des votes communautaires et il y a une réalité sociologique qui n'est pas propre à Bruxelles où effectivement le vote est une forme d'affirmation communautaire dans une certaine mesure. Par exemple, un politologue, Pascal De Witt, m'expliquait l'exemple d'Écolo où il y a une forme d'affirmation communautaire de genre chez Écolo, c'est-à-dire qu'il y a plus de femmes qui votent dans les listes écolo et il y a plus de personnes, femmes ou hommes, qui votent pour des femmes sur les listes écolo. À côté de ça, il faut aussi comprendre qu'il y a une logique familiale dans le vote, c'est-à-dire qu'on vote pour une personne qui nous ressemble parce qu'on aime, on apprécie son parti, pour sa réputation. Mais en fait, il faut comprendre qu'en anthropologie politique, une personne en fait qui est orphelin et enfant unique a moins de chances d'être élue qu'une personne qui a une famille très grande, très nombreuse, unie, avec une grande cohésion sociale, qui a une logique de clan. Et ça se vérifie évidemment dès lors qu'en fait il se fait qu'à Bruxelles, et bien au sein de certaines minorités non belges, par exemple des minorités turques et marocaines, et bien cette logique-là est la plus forte, d'autant plus dans une élection qui est localisée.
Là, il y a aussi un exemple qui revient assez régulièrement, c'est l'épisode qu'on appelle l'épisode du Stemblock dans les années 2000 à Uccle. Il s'est passé quoi ? Qu'est-ce qu'on entend par stem bloc ?
Alors le stem bloc, qui n'est donc pas une gazelle d'Afrique, c'est en fait un système de vote collectif. On n'est plus du tout ici dans le comportement électoral individuel, on est vraiment dans une stratégie, une technique qui est typiquement bruxelloise de vote, où en fait certains candidats vont appeler en fait à voter pour certains candidats sur une liste parce qu'en fait eh bien ils correspondent à une tendance par exemple catholique ou laïque, flamande, francophone, ou par exemple eh bien c'était le cas à Uccle dans les années 2000 quand il y avait des listes PRL, il y avait clairement des candidats libéraux qui donnaient en fait distribuaient des prospectus en indiquant quels étaient les candidats libéraux sur cette liste et des candidats FDF qui faisaient diffuser auprès des électeurs la liste des candidats FDF sur cette liste. Mais là-dedans on est dans le stem bloc, le vote collectif, on est vraiment dans une logique de vote qui est en fait coordonnée pour exprimer des voix de préférence pour des candidats, et il n'est absolument pas démontré aujourd'hui dans les études que j'ai pu consulter que, outre ces exemples flamands francophones ou FDF à Uccle dans les années 2000, il n'y a pas de stem bloc aujourd'hui de la part de certaines minorités à Bruxelles.
Dans ce qu'on appelle le vote communautaire, ce qu'on a expliqué il y a quelques instants, il n'y a pas cette logique de coordination d'effet de groupe.
Pour l'instant pas. En tout cas, ça n'a pas été observé par des scientifiques ni même des journalistes. Il y a des comportements électoraux qui sont effectivement le fait que ça peut être des comportements électoraux de voter pour des gens qui nous ressemblent et on appartient effectivement à une minorité, ou c'est aussi en fait de faire un vote symbolique militant, c'est-à-dire je vais voter pour des personnes que j'estime sont invisibilisées. Typiquement, je vais voter pour les trois femmes de la liste parce que j'estime qu'il faut une meilleure représentation des femmes, mais pour l'instant on observe ça uniquement dans des comportements individuels, et je le rappelle, le vote vit d'après les politologues que j'ai pu contacter, il est communautaire partout pour toutes les communautés, et il faut aussi bien se rendre compte qu'en fait l'aspect communautaire il est multiple, c'est-à-dire que moi Fanny je suis une femme et j'ai moins de 35 ans, j'ai pas d'enfants, enfin donc tout cela s'ajoute et c'est assez complexe en fait d'identifier les raisons, les motivations du vote d'une personne.
Maxime, qui va soutenir cette proposition déposée par Julien Huitendal, parce que tous les partis font d'une certaine manière du vote communautaire et donc c'est se tirer d'une balle dans le pied pour tous.
C'est là que ça devient un petit peu piquant cette proposition de Julien Huitendal, puisqu'il a signé cette proposition d'ordonnance, co-signé cette proposition avec Vincent De Wolf, qui est un député MR, et une autre députée MR, Viviane Teitelbaum, qui sont donc deux représentants de l'opposition. Donc c'est très étrange qu'un membre de la majorité, puisque le PS est dans la majorité avec Défi et Écolo, aille chercher l'aide de l'opposition pour faire passer sa proposition. C'est même presque une trahison en fait ce qu'il est en train de faire.
Est-ce qu'on sait déjà comment risquent de réagir les autres partis, notamment au sein de sa propre formation au sein du Parti Socialiste?
Alors lui dit qu'il a fait le tour de tous les partis sauf les extrêmes ces derniers mois, puisque ça fait un moment qu'il prépare sa proposition, et qu'il n'a reçu que donc le soutien officiel du MR. Défi soutient aussi de l'extérieur. Emmanuel Deboc, qui est le chef de groupe Défi, dit que philosophiquement il soutient le projet, mais qu'il y a un accord tacite au sein de la majorité pour qu'on se soutienne, et que donc s'il n'a pas obtenu un accord dans la majorité, on ne va pas le soutenir ou co-signer son projet. Et donc on le comprend, oui, dans son propre groupe politique, il n'y a personne qui a accepté de signer sa proposition.
Merci Maxime.
Merci Pierre.
Merci Fanny.
Merci Pierre.
Le Parlement européen a établi ses quartiers à Strasbourg cette semaine pour la plénière, une plénière marquée évidemment du sceau du Qatar Gate. Si le sujet occupait toutes les conversations en coulisses, il n'a finalement pas été tellement abordé par les principaux intéressés. Véronique Lamquin, en charge des questions européennes, était envoyée spéciale à Strasbourg. On l'a appelée pour en savoir plus sur les coulisses de cette semaine un peu particulière.
Bonjour Véronique.
Bonjour Pierre.
Vous êtes à Strasbourg pour suivre cette plénière du Parlement européen. Ça parle de quoi dans les couloirs cette semaine ?
À votre avis, Pierre, de quoi peut-on parler d'autre que du Qatar Gate ? Du Qatar Gate, évidemment.
Évidemment, le Qatar Gate qui occupe absolument tous les esprits, c'est le sujet de conversation numéro un. On le remarque aussi dans le travail des parlementaires, dans les réunions, dans les commissions, pendant les séances plénières. C'est aussi un sujet qui a été abordé.
C'est un petit peu une semaine particulière qu'on vit à Strasbourg, puisqu'on se souvient que le Qatar Gate a éclaté dans les colonnes du soir en décembre, juste avant une séance plénière. Et forcément, celle-là avait été fort marquée par le choc qu'avait éprouvé, disait-il, tous les députés. On s'attendait à ce que cette session de janvier parle aussi du Qatar Gate, avec une série d'éléments, de mesures pour essayer que tout ça ne puisse plus arriver, etc. etc. Donc, lundi, en arrivant à Strasbourg, la quasi-totalité des groupes politiques ont demandé qu'on inscrive à l'ordre du jour de la session un débat sur le Qatar Gate. Nous avons assisté à ce débat hier, qui a été inséré vers 17h, en fin d'après-midi. dans un hémicycle qui n'était pas particulièrement rempli, c'est peu de le dire. Et on a eu une petite heure d'échange. Alors le débat, il avait été conçu un petit peu pour plaire à tout le monde. Donc il y a des groupes qui voulaient parler du Maroc pour qu'on ne focalise pas seulement sur le Qatar. Il y a des groupes qui voulaient quand même un petit peu décortiquer l'affaire. Il y a des groupes qui voulaient insister sur les mesures de gouvernance et d'éthique à prendre. Bref, quelque chose d'assez fourre-tout. Et on a eu un débat fourre-tout à l'image de son intitulé, avec chaque intervenant qui est venu parler une ou deux minutes selon les règles, et qui a déroulé sa petite feuille de papier avec ce qu'il avait envie de dire, aucun échange, aucun débat, aucune conclusion opérationnelle, mais c'est peut-être pas l'objet d'un débat, mais rien de très transcendant. Et donc c'était vraiment une opportunité manquée pour le Parlement européen de montrer que quelque part il prend la mesure de ce qui arrive, même si on ne connaît pas encore tous les éléments que l'enquête permettra de dévoiler, et aussi qu'il est déterminé à agir et à prendre une série de mesures. C'était vraiment une occasion manquée, je ne peux pas le dire autrement.
Ça faisait plus exercice de communication de la part des parlementaires, plus que vraiment aller au fond du dossier, au fond du débat.
Oui, c'est extrêmement paradoxal parce que forcément, dans les couloirs de Strasbourg, et il y en a beaucoup, ils sont grands, ils sont larges et ils sont sur plusieurs étages, on ne parle que de cela. Dès qu'il y a un élu ou qu'il y a un chef de groupe qui prend la parole, immédiatement, les questions tournent autour de ça. Et donc forcément, le Qatar Gate, c'est bien normal, c'est le sujet de conversation numéro un. La semaine dernière, Roberta Metsola a présenté dans nos colonnes une série de mesures qui ont plus ou moins fait l'objet d'un soutien. Depuis lundi, chaque groupe vient avec ses propositions, ils veulent tous aller plus loin, ils veulent tous prendre des mesures plus importantes, plus ambitieuses, ils veulent tous faire plein de choses. Et au final, on va repartir de Strasbourg et rentrer à Bruxelles avec une impression de ne pas trop savoir vers où on va. Alors c'est un petit peu dû aux procédures du Parlement européen, mais il y a une impression assez brouillonne qui règne et qui n'est pas très engageante quant à la suite.
Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'au-delà du débat sur le fond du dossier, il y a aussi les tensions entre les principaux groupes politiques existants au Parlement européen qui ressortent et qui pourrissent un petit peu le débat sur le Qatar Gate.
Vous avez tout à fait raison. Donc, il y a une tension latente entre le PPE, donc le groupe des conservateurs, et les socialistes. Alors, le PPE n'ose pas attaquer trop frontalement, comme ils l'ont fait brièvement en décembre, les socialistes, mais quand même hier, à sa conférence de presse, Manfred Weber, leur président, a expliqué qu'il était déçu par le manque de réaction et de réactivité des socialistes, qui, disait-il, n'ont toujours pas exclu les uns et les autres. On vient par ailleurs de vivre au Parlement européen quelque chose d'assez particulier. Il fallait remplacer Eva Kaili à la vice-présidence de l'Assemblée. Il y avait un candidat socialiste puisqu'au nom des grands accords politiques, ça revenait aux socialistes. Il y a eu une candidate d'extrême droite qui s'est présentée et qui a obtenu au premier tour du scrutin un nombre de voix supérieur à toutes les voix de l'extrême droite. Il y a donc des élus d'autres partis, alors tout le monde regarde le PPE, mais le vote est secret, on n'en a donc pas la preuve, qui par mécontentement envers les socialistes n'ont pas hésité à trahir un cordon sanitaire qui n'existe peut-être pas au niveau européen, mais à porter leur voix sur une candidate d'extrême droite. Et donc ça témoigne aussi de la tension qui règne actuellement. Or, la tension, elle ne va pas être très propice à essayer comme assemblée de sortir par le haut de ce scandale et de prendre des mesures pour essayer d'éviter que ça ne se répète. Il y a par ailleurs une autre chose qui se dit beaucoup dans les couloirs, notamment à l'égard des journalistes, c'est « oui, mais par ailleurs, on travaille beaucoup, on travaille sur plein d'autres choses, et c'est vrai qu'il y a énormément de points à l'ordre du jour. Ce matin, il y avait Charles-Michel et Ursula von der Leyen qui sont venus parler de la compétitivité européenne, il y a eu énormément de sujets sur les droits de l'homme, il y a beaucoup de choses, mais on a envie de leur dire à ces parlementaires, mais au plus vite, vous prendrez des mesures pour essayer de réformer l'institution et éviter que ce genre de choses ne puissent se reproduire, au plus vite on ne reparlera que de tout le travail que vous menez par ailleurs.
Ce qui fait un petit peu désordre aussi, on a en début de semaine énormément parlé des déclarations de voyage, dans la foulée évidemment des révélations autour de Marc Tarabella par exemple. Ça fait un peu désordre parce que la page dans laquelle on peut entrer ces déclarations, c'est celle qui a été peut-être la plus visitée cette semaine par les députés européens. Il y en a plein qui ont rempli en vitesse ce qu'ils avaient oublié de remplir sur les mois précédents.
Dont un Belge, lorsque le soir a posé la question, puisqu'on a fait le tour des députés belges. Et effectivement, c'est une page très très consultée. Alors il y a une série de règles qui s'imposent à un député que manifestement certains ont oublié de lire. Alors on peut accorder le bénéfice du doute à quelqu'un. quelques-uns, mais ça en dit quand même long sur la manière dont toutes les règles qui sont imposées aux députés sont respectées, appliquées, etc. Et donc, quand Roberta Metsola a dit qu'elle veut d'abord et avant tout renforcer et faire appliquer les règles existantes, je pense qu'il y a déjà là une tâche énorme, ce qui suppose aussi de mettre en place tout un mécanisme de contrôle au sein du Parlement européen, au niveau de l'administration du Parlement, pour que ce soit une priorité et que les députés sachent que les règles auxquelles ils sont censés avoir souscrit en prenant leur mandat, ben elles font l'objet d'un contrôle et potentiellement de sanctions si elles ne sont pas respectées. Mais effectivement, tout d'un coup, tout le monde se souvient qu'il a un jour voyagé tout frais payé et que ça aurait peut-être dû figurer dans une feuille. Par ailleurs, Maria Arena disait à certains confrères que cette procédure était lourde. Nous sommes tous allés voir, il s'agit d'une petite feuille A4 sur laquelle il faut simplement mettre le nom de la puissance invitante, quelques éléments sur l'hébergement et les déplacements, et ça suffit. Donc ce n'est pas non plus quelque chose d'insurmontable, surtout quand on a plusieurs assistants qui, à mon avis, peuvent faire ça.
Une dernière petite chose concernant la demande de levée d'immunité, notamment de Marc Tarabella. On sait où ça en est.
Donc c'est une procédure qui se déroule devant la commission des affaires juridiques, qui se réunira lundi prochain. On sait déjà que M. Cozzolino, l'un des deux députés concernés, souhaite être entendu. Ce n'est pas le cas de Marc Tarabella. Cette audition pourrait avoir lieu mardi prochain. Et puis la commission des affaires juridiques doit écrire un rapport. Ce sera Manon Aubry qui est en charge de la rédaction de ce rapport, la coprésidente de l'extrême gauche. Et puis ce rapport doit être voté par cette commission et puis en plénière. Tout ça pour dire qu'au plus tôt, le vote en plénière sur les deux levées d'immunité, il n'y a pas beaucoup de suspense, pourrait intervenir les 1er et 2 février ou au plus tard, le 13 février, de nouveau à Strasbourg.
Merci beaucoup Véronique.
Merci Pierre.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain.